Ne pas oublier. Aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. 1 million de Juifs y sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Une quarantaine de dirigeants, parmi lesquels Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, se retrouvent aujourd'hui à Jérusalem pour une commémoration et pour perpétuer la mémoire de la Shoah. Et c'est aussi votre travail, Sophie Naoum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires. Ça fait 3 ans que vous travaillez spécifiquement sur ce thème de la déportation. Vous avez rencontré et vous continuez de rencontrer les derniers survivants de ce génocide. Vous en avez fait des films, une petite vingtaine, et désormais aussi un livre que j'ai entre les mains et qui s'intitule « Les derniers ». Et ce qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est que malgré toutes ces années qui ont passé, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et certains rescapés vous disent qu'ils ne racontent pas tout et qu'ils ne raconteront jamais tout. Il y a des choses indicibles.
Ah oui, il y a des scènes tellement horribles qu'ils n'arrivent même pas à les verbaliser. Enfin, j'imagine, je ne sais pas puisque forcément ils me les ont pas racontées, mais c'est vrai.
Il y a déjà pas mal de choses atroces hein, quand même dans votre livre qu'ils racontent.
Oui, pour être honnête,
pire.
Oui, et puis j'ai pas été forcément chercher les anecdotes les pires. C'était pas tout à fait mon but. C'était vraiment, c'est vrai, surtout de leur faire parler de leur vie après, de ce qu'ils avaient réussi à reconstruire avec le traumatisme.
En fait. Alors ces derniers témoins, vous les avez rencontrés chez eux, vous les avez interrogés sur la déportation évidemment, mais aussi sur leur vie d'avant et sur leur vie d'après. Ils se sont confiés facilement.
Oui, alors vous savez, c'est des gens qui pour la plupart n'ont pas parlé pendant 40 ans. Il y a quelque chose que j'ai découvert, hein, je savais pas aussi clairement ça, que ce que j'ai entendu de leur bouche, c'est que après la guerre, personne n'a voulu les entendre. Il y a eu vraiment une chape de plomb qui a été mise, enfin ils ont vraiment dérangé un pays qui voulait vivre, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont eu d'arriver comme un cheveu sur la soupe, ça ils me l'ont tous dit, ou quasiment tous. Et donc on leur répondait, écoutez, soit vous êtes des menteurs, soit si ce que vous dites est vrai, comment ça se fait que vous soyez là? Donc en fait c'était vraiment, ils perdaient à tous les coups, quoi. C'était la triple peine. Donc, et puis aussi, ils avaient besoin, évidemment, un petit peu, entre guillemets, de cicatriser, d'avancer dans la vie. Élie Buzyn a une image que je trouve extrêmement poignante où il dit, je me suis mis des œillères pour avancer comme un cheval. Parce que si je regardais, sur le côté ou derrière, il y avait un précipice dans lequel il y avait tous les miens et c'était un vrai risque de suicide. Donc, j'ai mis des œillères, j'ai avancé dans la vie.
Voilà. Il y en a un, d'ailleurs, qui vous dit aussi que, encore aujourd'hui, quand les souvenirs lui reviennent, c'est comme si on lui tirait dessus, il n'y arrive pas. C'est pour lui, c'est vraiment très douloureux. On le comprend en lisant votre livre, plus que pour les autres. Quoi.
Oui, pour Jean, c'est particulièrement Jean Veslik, c'est particulièrement douloureux. C'est très intéressant parce que c'est un couple, c'est le seul couple d'anciens déportés mariés ensemble que j'ai rencontré. Et en fait, c'est sa femme qui le pousse un petit peu à raconter. Et c'est vrai que lui, on sent que ça lui coûte vraiment. Après, Jean, c'est quelqu'un qui est né en Pologne. Donc il y a une histoire particulièrement atroce dans le sens où il ne lui restait vraiment vraiment plus personne. Et lui, physiquement, il a failli faire un malaise. Enfin, je veux dire, il était blême, il transpirait, quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout de tous.
Mais... Et pourquoi ont-ils finalement accepté de parler, de repenser à toutes ces horreurs qu'ils ont vécues?
Pour plein de raisons, et puis j'aurais du mal à être vraiment exhaustive, mais en gros, ils n'ont pas parlé à leurs enfants parce que c'était trop rapide, c'était trop violent. Ils voulaient pas transmettre la douleur directement à leurs enfants.
Parfois même à leurs parents aussi.
Oui, oui, exactement. Il y a une espèce de tentative de préservation mutuelle qui a installé un silence aussi dans les familles. Et puis alors ensuite, très souvent les petits-enfants qui n'avaient pas cette espèce de difficulté à en parler ont été naturellement à l'adolescence, leur poser des questions, leur dire « Ah papy, c'est quoi le numéro ?» et tout ça. Donc ça a déjà commencé à déclencher la parole. Le temps a passé, la parole s'est libérée aussi dans la société, c'est-à-dire qu'on a commencé à savoir un peu plus. Faut quand même rappeler, moi c'est quelque chose, quand j'ai pris vraiment conscience de ça, il a fallu attendre 95 pour qu'un chef d'État parle de la responsabilité, entre guillemets, enfin en tout cas en partie de la France. C'était Chirac en 95. Ils ont attendu 50 ans, les gens. Donc il y a tout ça. Il y a eu Shoah de Lanzmann. Enfin, il y a eu plein de petits facteurs qui ont libéré leur parole. Et puis, pour beaucoup, l'arrivée du dénégationniste. Il y a Robert qui dit ça très bien. C'est-à-dire qu'il a dit, quand j'ai commencé à entendre des gens qui clamaient haut et fort que c'était des mythes, que les chambres à gaz, c'était pour les poux, que c'était des décors que les Américains avaient construits. Là, vraiment, ça en a mobilisé certains. Mais ça a été très très long. Vous savez, il y en a qui témoignent que depuis 10-15 ans.
Et dans ces témoignages, ce qui ressort aussi, c'est leur inquiétude, leur pessimisme aussi. Et c'est aussi pour ça, j'ai l'impression, qu'ils veulent témoigner. C'est pour alerter le monde d'aujourd'hui sur cette menace. Ils disent ça peut arriver encore parce que,
bien sûr,
je trouve ça très intéressant. Ils disent ce n'étaient pas des fous. Ce ne sont pas des fous qui ont fait ça.
Oui, évidemment. Alors, ils ont fait la promesse aussi aux personnes décédées dans les camps de témoigner. Il y avait aussi cette responsabilité-là. Ils avaient l'impression d'avoir aussi ce devoir par rapport à eux. Ils sont inquiets, et évidemment. Ils pensaient au minimum que ça servirait à quelque chose, tout ça, qu'on en retiendrait quelque chose, que ça changerait un petit peu l'humanité. Bon, c'est pas le cas. Et puis c'est vrai que, si vous voulez, ils pensent que l'histoire ne se répète pas tout à fait de la même manière, mais que le piège, c'est qu'elle peut se répéter de manière un tout petit peu différente, et c'est là qu'est le piège, en fait. C'est
reconnaître la menace dans ses nouveaux habits, c'est ce qu'ils vous disent.
Évidemment, c'est-à-dire que, évidemment, le plus jamais ça, je pense pas que demain on puisse laisser arriver des troupes de SS sur Paris, mais c'est pas comme ça que ça se passerait. Et puis, ce qui est très touchant chez eux, c'est que s'ils témoignent, s'ils vont dans les lycées encore à leur âge, c'est pas seulement pour la mémoire de cette histoire, c'est vraiment pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est vraiment un message de vigilance par rapport aux signaux. Ils vont dire dans les écoles que c'était pas des fous, que ceux qui les ont dénoncés, c'était la voisine qui était copine de la mère et qui était très sympa. Enfin, et puis même les nazis venaient d'une société très civilisée. C'était des gens éduqués qui avaient lu des livres. Enfin, vous voyez, on a souvent cette idée qu'il suffirait d'être un petit peu plus érudit, mais pas du tout. C'était des gens qui avaient des familles, qui jouaient avec leurs enfants le soir.
Et ce qui les terrifie, c'est ce qu'ils vous racontent. C'est pas tant la haine du juif ou de l'antisémitisme, ça finalement ça les étonne pas trop, ils disent c'est vieux comme le monde,
voilà.
Mais c'est le manque de réaction face aux paroles et aux actes haineux, et il y en a en ce moment en France.
Exactement, mais c'est bien, vous avez bien regardé mon livre, c'est gentil, c'est tout à fait ça. Ce qui est bouleversant, si vous voulez, c'est par exemple quand Lucette me raconte qu'elle voit un défilé dans lequel on crie mort aux juifs. Alors évidemment, ça lui fait pas plaisir, hein. je vais pas vous dire qu'entendre mort aux juifs crier dans les rues de Paris 70 ans en l'occurrence, c'était après la guerre, ça soit réjouissant. Mais ce qui la terrorise, c'est de voir que ça passe, que ça circule, que les gens regardent sans réagir, et que ce soit mort aux juifs ou mort à autre chose. Si vous voulez, si dans la cour de récré, vous laissez votre gosse vous voyez, s'allier avec les autres pour frapper celui qui est un petit peu plus rond ou qui a des lunettes, enfin, c'est déjà la fin. Et en fait, le juif, c'est toujours l'annonce d'un effondrement plus global, et c'est ce qu'on malheureusement à quoi on assiste.
Et il y a que des témoignages de ce niveau dans votre livre, Les Derniers.
Merci.
Merci Sophie Naoum, un livre publié aux éditions Alizio. Vous étiez l'invité du 5-7.